août 2022, vous écoutez le programme du studio Kalangou. Il vient d'être 17h. Dans un instant, le journal en français avec Rafika Taher. À présent, les titres. Le gouvernement a augmenté le prix du litre du gasoil à la pompe le 1er août. Le président de la République a rencontré les organisations de la société civile pour expliquer les raisons. À suivre dans ce journal la réaction des OSC. Un forum sur la lutte contre le blanchiment d'argent est organisé dans la région d'Agadez. L'objectif de celui-ci est de renforcer les capacités des autorités et acteurs régionaux dans la lutte contre le fléau. Et dans la partie magazine de cette édition, vous aurez les explications de la loi protégeant les défenseurs des droits de l'homme au Niger. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, à la suite de la hausse du prix du litre de gasoil à la pompe décidée par le gouvernement le 1er août, le président de la République a rencontré samedi les OSC pour discuter de la question. Issa Garba, secrétaire à l'information de Tournons la page, estime qu'il y a d'autres mesures à prendre que d'augmenter le prix du gasoil. Il est au micro de Sakina Gazibo.
La rencontre avant-hier avec le président pour parler de la hausse du prix du gasoil à la pompe nous a rencontrés en tant qu'acteurs de la société civile, acteurs sociaux pour pouvoir discuter. Il nous a donné les informations par rapport à la hausse qui ont amené le gouvernement à adopter cette posture et que nous avons déjà avant la rencontre avec le président de la République décrié en considérant que c'est une augmentation illégale, une augmentation que nous pensons à notre niveau, une décision scélérate, impopulaire et injuste vis-à-vis du peuple nigérien parce que pour nous ça se justifie pas. Le président a donné un certain nombre d'explications qui ont été complétées par ses ministres et par les différents techniciens en charge de la question du pétrole. Mais je pense que moi, ma foi, je ne suis pas du tout convaincu des arguments qui ont été avancés parce que je sais qu'on peut s'en passer pour ne pas augmenter les prix. Il s'agit juste de prendre des mesures courageuses, des mesures responsables pour que vraiment cette situation d'augmentation ne puisse advenir.
Dans le même sens, le mouvement M62, Union sacrée pour la sauvegarde de la souveraineté et de la dignité du peuple, a tenu hier à faire le bilan à mi-parcours de la semaine de la dignité lancée à l'occasion du lancement du mouvement. Le mouvement, dans sa déclaration, a demandé la levée immédiate des mesures d'augmentation des prix des produits de première nécessité au Niger. Abdoulaye Seydou, membre du mouvement M62, au micro du studio Kalangou.
Le gouvernement s'est lancé en appelant les acteurs sociaux. Cependant, cette rencontre n'a pas donné des résultats satisfaisants, des réponses concrètes. Alors, nous avons tiré la conclusion selon laquelle les citoyens sont plus que jamais dans l'obligation de se battre pour amener le gouvernement à reculer. C'est pour cela que le mouvement M62 a réitéré son programme initial de marche de protestation sur l'ensemble du territoire national autour de ces trois points de revendication qui sont la levée immédiate et sans condition de la mesure d'augmentation du prix, des mesures concrètes contre la vie chère, mais aussi et surtout des mesures contre la cherté de la vie. Et le troisième point de notre revendication, nous avons réitéré notre opposition à la présence de Barkhane et appelé à son départ immédiat.
Partout à Zender, où les organisations de la société civile membres du cadre de concertation ont également rendu publique une déclaration. Celle-ci est aussi relative notamment à la situation économique du pays ainsi que la gestion des appuis de l'État à la région. Sadat El Hadji Ilia, membre du cadre, au micro de Zara Boukar.
Ça fait plus d'un an que nous faisons face à une hausse des prix des produits. Le coût de la vie ne fait que galoper de façon vertigineuse. En ce qui concerne de la vente des sangs, ici il y a des problèmes. Le problème c'est par rapport au comité d'abord qui sont chargés de vendre ces sols-là. On constate qu'il y a l'absence de la société civile. Ici, dans la région des Zender, on constate qu'il n'y a aucune organisation paysanne crédible qui est associée dans cette opération-là. Ce qui donne lieu à des malversations et le son est vendu à des commerçants, il est vendu à des fonctionnaires. Donc, les vrais bénéficiaires qui sont les éleveurs ne bénéficient pas véritablement de ce soutien-là. À toute cette situation de cherté de la vie, à notre grande surprise, le gouvernement a décidé de rehausser les prix des hydrocarbures, notamment les gasoils. On constate que les revenus du pétrole ne profitent à personne.
La cellule nationale de traitement des informations financières renforce les capacités des autorités et acteurs régionaux d'Agadez en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Comprendre et combattre ce fléau par les acteurs de la chaîne est l'objectif de ce forum, a expliqué Taher Hassan, président de la cellule nationale de traitement des informations financières. Il est au micro de Moussa Maman.
On veut que les acteurs soient mieux outillés pour comprendre ce fléau et combattre ce fléau. Parce que blanchir les capitaux, c'est un fléau qui gangrène plusieurs pays. C'est un fléau qui est à la base de beaucoup d'instabilité socio-économique dans plusieurs pays. Nous ne souhaitons pas que notre pays soit pris en main par des criminels qui vont blanchir les capitaux, qui vont éjecter l'argent sale. L'argent sale, c'est l'argent provenant des crimes. Donc il y a 23 infractions sous-jacentes. Tous les fonds tirés de ces infractions sous-jacentes, qu'il s'agisse de la corruption, qu'il s'agisse du grand banditisme, du trafic de drogue. Donc tous les produits tirés de ces phénomènes sont de l'argent sale éjecté dans l'économie, malheureusement qui crée un déséquilibre dans l'économie, crée aussi des conséquences socio-économiques dans le pays. Nous voulons que les autorités de la région d'Agadez puissent comprendre la manifestation de ce phénomène, comment il faut comprendre, comment il faut lutter, qui il faut saisir quand on a une situation pareille devant soi.
Comment le SEMPAEM peut-il contribuer à l'amélioration de la formation des stagiaires en conduite? C'est le thème de l'Assemblée constitutive d'un nouveau syndicat des moniteurs et promoteurs d'auto-école au Niger. Toye Abdelkader, membre du syndicat, a indiqué que ce nouveau cadre permettra aux moniteurs et promoteurs d'être dans leurs droits. Il est au micro d'Alamine Ouachar.
Ce syndicat est créé d'une vision commune afin de ramener les moniteurs et promoteurs d'auto-école dans leurs droits. Avant d'y venir sur le choix, nous avons eu par recours au ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, dont vous avez suivi qu'il y a beaucoup de réformes qu'ils attendent, et travailler aussi avec nous en tant que formateurs, en tant qu'encadreurs d'auto-école. Quand on regarde en Afrique ou bien dans le monde, le Niger a un grand taux d'accidents de la circulation routière. Il faut qu'on change nos mentalités. Pour ce fléau, il faut que le cadre de la formation y soit vraiment assaini.
Retournons à Agadez où les violences basées sur le genre dans le milieu scolaire demeurent une préoccupation du Conseil régional de la jeunesse. C'est pour mettre fin à cela que le Conseil a entrepris hier une caravane de sensibilisation auprès des populations sur les conséquences de ces violences à Tirozérine. Mahamad Bassirou, membre du Conseil régional de la jeunesse d'Agadez, explique au micro d'Ahmed Félan.
Aujourd'hui, on est à Tiro pour la caravane de sensibilisation de violences basées sur les genres qu'on est en train de faire avec les élèves, les parents d'élèves, avec la direction aussi de la protection de l'enfant. On est là pour un peu sensibiliser les gens sur la violence basée sur les genres. En même temps, on prend leur avis, qu'est-ce qui amène ça. Et on va essayer de voir comment gérer ça avec notre organisation. C'est pour sensibiliser les jeunes parce qu'il y a beaucoup de formes de violences basées sur les genres. Dans le système éducatif, il y a la violence qui est très, très occupante entre les élèves et les enseignants. Parfois, les enseignants menacent les filles pour les utiliser, pour les donner des moyens. Ça, c'est aussi c'est une violence ici à Tiro. Ça a de l'ampleur un peu. C'est pour cela qu'on est venu à l'école pour le sensibiliser.
Restons en région, cette fois-ci à Dosso, pour prévenir les conflits entre éleveurs et agriculteurs pendant cette campagne agricole dans les communes de Tanda et Tunuga, département de Gaya. Les autorités administratives et coutumières ont commencé hier une caravane de sensibilisation. Une dizaine de villages seront sillonnés au cours de cette caravane. Assimo Abarchi, préfet de Gaya, au micro de Fadel Alou.
C'est une caravane de sensibilisation que nous avons entreprise dans le cadre de la prévention des conflits entre les acteurs du monde rural, notamment les éleveurs et les agriculteurs. On va faire une dizaine de villages dans la commune de Tunuga et une dizaine de villages dans la commune de Tanda pour que tout le monde puisse contribuer à la paix dans le département de Gaya, particulièrement dans ces deux communes où nous avons fréquemment des situations conflictuelles entre agriculteurs et éleveurs et qui malheureusement conduisent souvent à la mort d'hommes. Puisque nous sommes condamnés à vivre ensemble, agriculteurs et éleveurs, et par rapport à la gestion des ressources naturelles, nous préférons mettre le dialogue en avant à travers beaucoup de structures et de mécanismes que la loi a prévus. La chefferie traditionnelle est là, nous les autorités administratives nous sommes là, la justice également est là pour régler à l'amiable, mais on ne se fait pas justice.
Toujours dans la région de Dosso, pour la présente campagne agricole, le département de Dorondouchi a reçu un appui en semences de la part de l'État et de ses partenaires. La direction départementale de l'agriculture dispose également des pesticides pour faire face aux attaques des criquets et autres rongeurs, a déclaré Rabiu Abarchi, directeur départemental de l'agriculture de Dorondouchi. Il est au micro d'Abdelaziz Danyouma.
L'État, avec l'appui de ses partenaires, a apporté un appui à la production pour le département de Dorondouchi, précisément au niveau des villages vulnérables issus de la campagne précédente. Il y a le mil, il y a le sorgho, il y a le névé, l'arachide, le onzou et le sésame. Donc ces semences sont ensemencées dans les endroits où les gens ont fait la récupération de terre, c'est-à-dire les 2000 agricoles. Toujours pour la préparation de la campagne, donc la capacité d'intervention du département en pesticides qui est de 160 hectares. Donc, c'est-à-dire qu'on dispose d'une certaine quantité de pesticides qui va nous permettre de traiter 160 hectares. Par ailleurs, il y a d'autres communes qui ont pu acheter des produits. Par exemple, la commune de Dankassali, ils ont acheté 340 litres de pesticides.
La route qui relie la ville de Diffa au département de Bosso est pratiquement impraticable pendant cette période pluvieuse, a déclaré le vice-maire de Bosso. Les camions de transport mettent souvent 2 à 3 jours pour relier leur destination au lieu d'un. La conséquence de ce long trajet, les prix des produits connaissent une hausse sur le marché. Madame Kiari Boulou, vice-maire de Bosso, au micro de Guidi Abdraman.
Dieu merci, nous pouvons dire que la route est maintenant praticable, car les véhicules usagers de cet axe viennent régulièrement à Diffa. La seule difficulté est que si nous enregistrons 50 mm ou plus de pluie, le trafic sera perturbé pendant au moins 3 jours. C'est seuls les anciens chauffeurs qui connaissent les voies de contournement pour dévier les points dangereux qui assurent le transport. Et cela n'est pas sans conséquence sur le prix des denrées alimentaires. Par exemple, si la voie n'a aucun problème, on peut te transporter un colis d'environ 50 kg à Bosso à 200 ou 300 naira. Mais avec l'état actuel de la route, ce n'est pas tous les véhicules qui peuvent transporter des marchandises. Et ceux qui le peuvent augmentent les frais de transport. Notre appel à l'endroit des autorités est de nous construire une route bitumée de Kinchendi à Bosso en passant par Tumur. Si l'État nous réalise ce tronçon, nous n'aurons plus de problème de transport.
Place au magazine de cette édition. Pour promouvoir et défendre les droits humains, l'État du Niger a adopté le 20 juin une loi qui protège les défenseurs des droits de l'homme, leurs responsabilités ainsi que les recours et les réparations en cas de violation. Selon Garba Ilou Al-Mokhtar, président du comité de pilotage des OSC sur la défense des droits de l'homme, cette loi est une aubaine pour le Niger. Il est au micro d'Alamin Ouachar.
Président, en tant que défenseur des droits de l'homme, en quoi cette loi vous protège?
Cette loi nous protège sincèrement par rapport à d'abord la garantie de l'exercice de nos fonctions. Parce que aujourd'hui, nous n'avons plus la tête tournée vers des débats ou bien des litiges qui nous mettent souvent en conflit avec certaines lois. Mais cette loi vient de nous renforcer les capacités. Cette loi vient de nous protéger. Il y a en tout cas 8 dispositions où nous avons sincèrement des avantages. Mais malgré tout ça, nous avons des difficultés à comprendre certaines dispositions de cette loi. Les articles 15, 16, 21, 24 qui nous ressemblent comme si le véhicule est en train de faire marche arrière. Parce que de l'article 4 à l'article 13, on nous propose des avantages, mais malheureusement l'article 16 disposait que si un défenseur de droit se fait confronter à la souveraineté nationale, quelque chose qui est vague et complexe, il sera vu par le procureur de la République. Mais ce qu'on a vu, le parquet est le seul décideur et le seul maître de sanction. Nous n'avons rien contre le parquet, mais nous disons que cette loi appartient même au parquet, au ministère de la Justice. Normalement, les sanctions doivent être confiées à un juge de liberté fondamentale.
Quelles seront les conséquences de cette loi?
Les conséquences que nous voyons souvent, il y a des dispositions qui ne sont pas claires. Ça veut dire que, il est vrai, la loi, elle est là, elle est une belle fille, mais malheureusement, on risque d'être pris par le procureur de la République à tout moment, parce qu'il n'y a pas eu de détails précis. Si c'est la question de la souveraineté de l'État, ils devront mettre quelques aliénés pour dire si c'est la situation militaire, on est en contradiction avec cette loi, si c'est la question de la famine, on est en contradiction de cette loi, si c'est la question du terrorisme. Donc, il y a vraiment certains détails qui ont été compactés pour nous et qui risquent de nous inquiéter.
Et quels seront les avantages de cette loi pour un pays comme le Niger?
Les avantages, le Niger est en train de récupérer ce qui est perdu. Aujourd'hui, le Niger tente de répondre aux normes internationale sur la question des droits humains et des libertés fondamentales. C'est apprécié, je l'ai toujours dit. Mais malheureusement encore, nous devons revoir certaines choses. Et cette loi mérite d'être encore revue sur certains points. Effectivement, nous avons aussi une redevabilité. On ne peut pas faire ce qu'on veut dans un pays, c'est notre pays. Mais c'est vrai, souvent, si on nous voit à la télé ou bien on intervient souvent, les gens pensent qu'on va...
Nous sommes au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivie.